10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, c'est l'islam au présent tous les vendredis jusqu'à 11h, une heure pour parler d'islam avec l'imam Abdelali Mamoun aujourd'hui. Comment ça va, imam Abdelali?
Bonjour Philippe, salam alaikum wa rahmatoullahi wa barakatuh. Ça va merveilleusement, alhamdulillah. Voilà, très bien.
Je voudrais qu'on parle des dernières informations qu'on a concernant le Hajj qu'on a eu cette semaine.
Effectivement.
Été communiqué donc par les autorités saoudiennes.
Donc effectivement, l'information officielle nous donne que cette année, il n'y aura pas tout simplement de pèlerinage. C'est officiel. Aucun pèlerin venu de l'étranger, c'est-à-dire venu de l'extérieur de l'Arabie Saoudite, ne pourra accomplir le pèlerinage à la Mecque. Seuls les résidents ou les Saoudiens, bien sûr, c'est-à-dire les citoyens saoudiens de l'Arabie et les étrangers qui résident en Arabie Saoudite, pourront cette année s'inscrire pour accomplir le pèlerinage, bien sûr, avec des conditions extrêmement drastiques. Entre autres, que la personne ait les moins de 65 ans, que la personne ne soit pas atteinte de maladies chroniques. Il y aura des examens médicaux à faire avant de pouvoir accomplir le pèlerinage. Donc, on compte à peu près quelques milliers de pèlerins sur ce qu'on a d'habitude à avoir, Philippe, environ 2 millions, 2 millions 5, 3 millions de pèlerins tous les ans. Donc, voilà ce que ça
commence. Si vous n'êtes pas résident d'Arabie Saoudite, vous ne pouvez pas y aller.
Si vous n'êtes pas sur place,
c'est clair.
Tous les aéroports sont fermés, bouclés.
Il ne faut pas essayer de contourner tout ça. Il n'y aura pas de visa âge délivré.
Peut-être du piston. Vous savez, chez les Arabes, c'est toujours comme ça. Il y a toujours un peu de piston, des fois. Mais en tout cas, pour l'instant, dernière nouvelle, aucune personne ne pourra venir de l'étranger.
Ce que je vous dis, c'est vraiment l'année où y aller, parce qu'il y aura personne. Hein. Les gens vont vouloir se battre, parce que si on leur dit c'est pas possible, ils vont vouloir y aller.
Ça sera génial cette année. Ceux qui vont y aller, ils vont kiffer.
C'est l'année ou jamais là.
Il y a pas de monde. Ils vont tourner autour de la Kaaba. Ils seront tout seuls. T'imagines, ils seront moins nombreux.
Non, c'est pour ça que je dis.
Qu'à l'époque du prophète Mohammed, quand il a fait Hajjat al-Wada', ils étaient quand même plus de 120 000. 100, 120 000 jusqu'à 140 000 selon certaines versions. Là, ils seront 2, 3, peut-être jusqu'à 10 000 personnes seulement. C'est vraiment extraordinaire. Le haram vide, Minen, ça sera vide, Arafat, ça sera vide, Muzdalifa, ça sera vide, Jamarat, ça sera vide. Pratiquement, je crois, personne ne dormira à la Belle Étoile. Même à Muzdalifa, ils vont réussir à les caser dans les bâtiments qu'ils ont réussi à construire là-bas. Ça sera vraiment un hajj du top. Pour celui qui va le faire.
Pour les pistonner, donc c'est le moment, faut y aller.
Oui, mais attention, il y a quand même à l'arrivée, au moment de la demande d'obtention du visa, ça va être quand même assez drastique pour eux, parce que tous les examens qu'ils auront à accomplir et à fournir.
Il y aura les examens d'entrée dans les territoires des pays éloignés.
Non, il n'y a pas les pays éloignés, ce sont les Saoudiens eux-mêmes de là-bas. C'est-à-dire les gens de Jeddah, les gens de Taïf, les gens de Médine, les gens de Riyad. Les gens de Khobar, etc., de l'Arabie, mais les gens de l'Arabie, mais aucune personne ne pourra venir de l'extérieur de l'Arabie.
Mais les compagnies saoudiennes ouvrent des vols, hein.
Non,
il y aura des vols.
Il y aura des vols touristes pour les gens qui veulent aller à Jeddah, mais ils pourront pas entrer à la Mecque.
Voilà, il y a des vols qui existent. Sur le plan de vol, il y a des vols.
Mecca est entouré de frontières. Personne ne rentre si t'as pas un visa Hajj.
Oui, c'est ce que je lui dis.
Voilà, attention. Donc, si tu vas en Arabie, après, qui t'autorise pour aller faire du travail, commerce ou tourisme, etc., ou pourquoi pas, ou visite Ziyarat, ce qu'on appelle Ziyarat al-A'ila, etc., c'est possible. Mais Hajj, c'est-à-dire rentrer dans le périmètre, ce qu'on appelle al-Haram al-Makki, impossible. Personne ne pourra y accéder s'il n'a pas fourni...
Patte blanche,
voilà.
Bien, on démarre avec le personnage du jour, Imam Abdelali. Quel est-il cette semaine?
Alors, je t'avais promis la semaine dernière de revenir un petit peu en arrière. On était l'année 300 de l'Hégire. Nous étions l'année 300 de l'Hégire. Et nous avons parlé du premier calife Omeyyade. Attention, je dis calife et non pas émir, parce qu'il y a eu beaucoup d'émirs avant ce calife, Abdurrahman Nasser, comme je l'avais dit. Mais le premier à s'autoproclamer calife, à Cordoue, c'est le calife Abdurrahman al-Nasr, qui est le Abdurrahman III. C'est le fameux Abdurrahman III, parce qu'on a eu Abdurrahman al-Dakhil, on a eu un deuxième Abdurrahman ibn Hisham, et là on a Abdurrahman ibn Muhammad, qui est le troisième calife, qui a vécu au début du 4e siècle en tant que calife, en l'an 300 exactement. Là on va faire un petit pas en arrière, Philippe, pour découvrir un petit peu qu'est-ce que c'est que cette dynastie Omeyyade qui a réussi à trouver sa légitimité dans le monde musulman, dans ces pays où les musulmans ont réussi à conquérir les territoires, notamment, je parle de l'Andalousie, mais bien avant, dans le pays du Cham, c'est-à-dire en Syrie, à Damas, il y a un émir qui s'appelle Muawiya, qui arrive à prendre le pouvoir après l'assassinat du quatrième calife bien guidé, un khalifatul muslimin Ali ibn Abi Talib, le calife Ali. Il arrive à prendre le pouvoir avec beaucoup de difficultés, puisque beaucoup vont le contester, notamment Abdullah ibn Zubayr, qui va créer son propre califat à Mecca, Urwa ibn Zubayr aussi, son frère, en Irak, etc. Plein de dissidents et de gens qui vont s'opposer à cette désignation de Muawiyah comme calife pour les musulmans, qu'on appellera le fondateur de la dynastie des Omeyyades. Mais si tu le permets, Philippe, on va faire encore un bond en arrière pour aller rejoindre le deuxième calife de l'islam qui s'appelle Omar ibn al-Khattab. Vous savez, Omar al-Khattab était quelqu'un de très soucieux et très proche de sa communauté. Il aimait se promener dans les rues, dans les ruelles, dans les faubourgs de la ville, etc. Et un jour, il se promène avec son fils qui s'appelle Asim ibn Omar et il s'arrête devant une maison. Et il entend deux femmes parler, bavarder. Et une paraît plus âgée que l'autre, dit à l'autre femme, dit « Oh ma fille, rajoute de l'eau dans le lait. Rajoute de l'eau dans le lait. Peut-être gagnerons-nous un petit peu plus d'argent en vendant ce lait mélangé avec de l'eau. » Et là...
Ça veut dire gruger.
Ils vont gruger, voilà. Et la fille dit à sa mère, mais le calife n'a pas toléré, n'a pas autorisé ce genre de choses, ce genre de pratique qui est de la tricherie. Rajouter de l'eau dans le lait, c'est tricher. Et là, qu'est-ce qu'elle dit la maman? Elle dit, ouais, mais Omar ne nous entend pas, il ne nous voit pas. Mais alors qu'Omar les entend, il est là, il les écoute. Et donc, à partir de là, cette fille répond à sa mère et dit, oh maman, si Omar ne nous entend pas, sache que le Dieu, le Seigneur de Omar nous entend lui. Il nous voit, il fait ce qu'on est en train de faire et il sait ce que nous faisons n'est pas bien. Mmh. Et là, Omar al-Khattab dit à son fils, tu sais mon fils, mets une croix sur la porte de cette maison. Alors, son fils, il a dit, ouais, peut-être que demain il va venir, il va aller punir. Et le lendemain, le père dit à son fils, tu vas aller dans cette maison, tu vas aller demander la main de la fille, de cette dame-là, tu vas te marier avec elle. Elle s'appelait Layla, cette femme, et elle va être l'épouse de Asim. Et c'est de cette lignée, donc Asim va avoir une enfant qui s'appelle Asma bint Asim bint Omar al-Khattab, qui va être la femme de Abdelaziz ibn Marwan, le frère de Abdelmalik ibn Marwan, le premier calife de l'islam. Et Abdelaziz, le frère de Abdelmalik, va donner naissance avec sa femme Asma, la fille justement de cette femme pieuse et de du fils du compagnon. Le petit-fils de Omar ibn Khattab radiallahu anhu va donner naissance à ce grand homme qui s'appelle Omar ibn Abdelaziz, qui portera ce surnom de manière unanime et consensuelle de tous les ulamas des siècles comme étant le cinquième calife de l'islam. Quand on dit cinquième calife, c'est-à-dire le cinquième calife bien guidé. Khamis al-Khulafa al-Rashidin al-Mahdiyin. Puisqu'on sait qu'il n'y a que quatre califes. Le prophète alayhi sallam a dit dans un hadith, Al khilafatu min ba'di 30 ama. Et Ali ibn Abi Talib est mort l'année 30 après la mort du prophète, c'est-à-dire l'année 40 de l'Hégire. Il est mort l'année 40 de l'Hégire, mais Omar ibn Abdelaziz va naître lui en l'an 61, c'est-à-dire 21 années après la mort du calife Ali ibn Abi Talib. Donc toute cette période-là, c'est-à-dire 60 ans de l'an 40 jusqu'à l'an 99, Omar ibn Abdelaziz, à cette époque-là, il a 39 ans ou 38 ans. Mm-hmm. Allez, il a 38 ans. Il est né en 61. Donc, il prend le pouvoir et il est désigné comme nouveau calife de musulmans en l'an 99 de l'Hégire, parce qu'il a été désigné par son cousin Sulayman ibn Abdelmalik. Sulayman ibn Abdelmalik est lui-même le frère de Al-Walid ibn Abdelmalik. Tous les deux sont les fils de Abd al-Malik ibn Marwan ibn al-Hakam ibn Abi al-As ibn Umayya, donc de la grande tribu des Omeyyades, de Mekwaz, Kinaniya, Qurashiya, de la tribu de Quraysh. Et donc cet homme-là, Omar ibn Abd al-Aziz, il n'a que 38 ans, il est marié avec sa cousine, c'est-à-dire avec la sœur des califes. Avec la sœur de Sulayman, avec la sœur de Walid, aussi la sœur de Yazid qui va prendre le pouvoir après Omar, et aussi de son frère qui va prendre ensuite le relais, Hisham ibn Abd al-Malik. Donc ce sont quatre frères plus un cousin, mariés avec la cousine, c'est-à-dire avec la sœur des quatre autres califes qui va être à la tête de ce royaume au moment même où les musulmans sont au Maghreb, sont en Andalousie, rentrent en France. Souleymane ibn Abd al-Malik en 97 de l'Égypte est à Poitiers. C'est à son époque là où l'armée de Abd al-Rahman al-Rafiqi arrive aux portes de Paris, à Lens, du côté de l'Est, après l'invasion de Lyon. Lyon, on connaît, je parle de notre Lyon à nous, en France, hein. Il arrive à Lens, à 100 km de Paris. C'est l'époque du sultan et du calife Souleymane ibn Abd al-Malik. Quand son cousin prend le pouvoir, Omar ibn Abd al-Aziz, c'est lui qui décrète immédiatement l'arrêt des invasions, l'arrêt des conquêtes, l'arrêt des guerres. C'est lui qui arrête d'abord de ravitailler l'armée, de fournir quoi que ce soit, et il ordonne à Maslama, qui a assiégé Constantinople, d'arrêter le siège. On arrête, il y a des gens, on peut pas les forcer à suivre la religion. Et là, il nous montre bien la position officielle de l'islam. Est-ce que l'islam est une religion conquérante qui contraint les gens à se convertir par l'épée? Eh bien, Omar ibn Abdelaziz nous montre que non, qu'effectivement, cette religion est une religion basée, il n'est pas basé sur la contrainte, mais sur le choix individuel de tout un chacun. Mais si les califes auparavant avaient décidé de combattre ces empires, c'est parce qu'ils semaient la tyrannie sur leur peuple, ou voire même menaçaient l'existence de l'empire du prophète Mohammed alayhi salatu wasalam, qu'il avait érigé en Arabie. Je rappelle qu'au moment de l'avènement du prophète, l'Arabie n'est plus alignée à aucun des deux empires romains et perses. Il n'est plus aligné avec les Perses depuis la bataille de Dhiqar, l'année où est-ce que le prophète alayhi salat wasalam reçoit la révélation en 610. Les Arabes se débarrassent des Perses, ils excluent les Perses de l'Arabie. Mais 40 ans avant, c'est-à-dire l'année de sa naissance, Abraha, qui est le vassal des Byzantins chrétiens, lui aussi est tué à Mecca avec les oiseaux. Tout le monde connaît la sourate Al-Fil, quand il envoie une armée avec un éléphant pour envahir la Mecque, et il est tué par les oiseaux de Dieu venus de l'enfer. Et donc, ces deux empires n'ont plus aucune influence sur l'Arabie. Et c'est cette situation-là que le prophète va vouloir maintenir après qu'il devient le chef de cette nouvelle nation musulmane qu'il a réussi à fonder et dont Médine est sa capitale. Les Romains le menacent au nord, il envoie une armée à Mota pour empêcher l'armée byzantine d'envahir l'Arabie. Une deuxième bataille à Tabouk, juste un peu avant sa mort, va définitivement dissuader les Romains de vouloir envahir l'Arabie et de rendre et de considérer l'Arabie comme vassal de l'Empire byzantin. Donc, Omar ibn Abd al-Aziz, qui même après la mort du prophète et la logique que va faire Abu Bakr, Omar, Uthman, surtout ces trois califes-là, vont continuer leur conquête jusqu'aux portes de Constantinople. Dès l'avènement des Omeyyades Marwanides, eh bien, cette conquête va encore prendre de l'ampleur. Avec Abu Yazid al-Khurasani, Abu al-Walid al-Khurasani, etc., qui va lui encore jusqu'aux portes de la Chine conquérir les territoires et islamiser tous ces pays-là. Et c'est quand Omar ibn Abd al-Aziz arrive que tout s'arrête. Il arrête toutes les conquêtes. On lui dit, mais pourquoi tu refuses de vouloir conquérir Constantinople, cette ville emblématique, symbolique du christianisme, de la présence du christianisme en Orient? Il faut qu'on arrive à la conquérir. Et là, il va répondre quoi? Il va dire, vous savez que vous êtes en train d'assiéger une ville dans laquelle il y a des enfants que vous avez affamés à cause de votre siège. Parce que quand on assiège une ville, on empêche les ravitaillements. Donc ce sont des enfants, des femmes, des vieillards, des personnes âgées, des personnes qui sont innocentes, qui n'ont rien demandé à personne. Vous êtes en train de les affamer pour contraindre leurs dirigeants à se rendre... non, s'ils veulent pas de l'islam, tant pis. Et Constantinople, qui deviendra plus tard Istanbul, ne sera conquise que seulement par ce sultan ottoman, pratiquement plusieurs siècles, sept siècles plus tard, Mohammed el-Fatih, qui va conquérir Constantinople. Mais à l'époque de Omar ibn Abd al-Aziz, stop, ça s'arrête là. Donc Omar ibn Abd al-Aziz va prendre tout un ensemble de mesures, d'abord personnelles, sa choix de vie austère.
On parlera de sa vie, de son choix de vie austère tout à l'heure, Imam Inchallah. Abdelali.
C'est un grand homme.
On continue d'évoquer la figure de ce grand homme jusqu'à
Omar ibn Abd al-Aziz, rahimahullah.
Voilà. Et on parlera du cahier de vacances des petits musulmans, parce que c'est vrai que les vacances approchent. Donc voilà, c'est vrai qu'ils ont perdu l'habitude de bosser un petit peu, mais voilà, on va rafraîchir tout ça. Et vous pouvez bien sûr poser vos questions à l'imam Abdelali en direct si vous en avez au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, vous savez, chaque semaine, l'imam Abdelali Mamoun évoque une personnalité, alors qu'elle soit connue ou moins des musulmans d'ailleurs, hein, l'imam Abdelali.
Oui, donc je parle de Omar, non pas le calife Omar ibn al-Khattab, deuxième calife de l'islam, mais de Omar ibn Abdelaziz, cinquième calife Omeyyade. Donc cinquième calife de la dynastie des Omeyyades, qui lui a pris le pouvoir, je le rappelle, en l'an 99 de l'Hégire, donc environ 40 ans, donc ce que je dis moi, plus que ça même, 90 ans après la mort du prophète, puisque le prophète est mort l'année 11 de l'Hégire, et lui il prend le pouvoir en 99, donc ça fait environ 88 ans, c'est ça, après la mort du prophète, voilà. Donc c'est longtemps même après la mort du quatrième calife, Ali ibn Abi Talib. Mais on l'appelle le cinquième calife tout simplement parce qu'il fait preuve d'une austérité extraordinaire, d'une très grande piété, équivalente à ceux des califes bien guidés. Mmh. Mais surtout par une attitude qu'on appelle la fameuse Bay'a al-Umariya. Cette Bay'a al-Umariya qu'on appelle le pacte d'allégeance au calife Omar est différente de ses prédécesseurs, puisque tous les autres califes qui sont désignés avant lui le sont par héritage héréditaire. C'est-à-dire c'est leur père calife qui désigne son héritier officiel, Wali al-Ahd. Marwan ibn al-Hakam va désigner Abdel Malik ibn Marwan. Abdel Malik ibn Marwan va désigner son fils Al-Walid ibn Abdel Malik. Al-Walid va désigner son frère Sulayman ibn Abdel Malik. Sulayman va désigner son cousin Omar ibn Abdel Aziz. Donc c'est à chaque fois le prédécesseur qui désigne son successeur. Sauf que là, Omar ibn Khattab va dire non, moi je ne veux pas de cette désignation. Je la veux du peuple. Je veux que le peuple choisisse son calife. Donc dès qu'il est désigné par son cousin Sulayman ibn Abdel Malik, Ibn Abdel Malik, il monte sur le minbar de la mosquée et il dit, voilà, je me destitue tout de suite. Voilà, je suis pas votre calife, je suis pas votre émir, je suis rien du tout. Je descends et choisissez celui que vous voulez. Et là, tout le monde va venir, mais non, mais on trouvera pas mieux que toi, c'est toi le meilleur, c'est toi ceci, c'est toi cela. Tous les musulmans vont venir de partout prêter allégeance à ce nouveau calife, Omar Ibn Abdel Aziz, qui obtiendra l'unanimité et le consensus de la Ummah. Au-delà de ça, de son statut princier, fils des princes, etc., etc.
Alors, quand on s'est quitté tout à l'heure, vous commenciez à évoquer son choix de vie austère, Imam Abdelali.
Oui, dès qu'il prend le pouvoir, il prend toutes ses affaires, il les sort du palais. Il n'y a plus de palais au Meyad, à Damas. Il n'y a plus de palais dans lequel, on va dire, l'opulence, ouais. le luxe, etc., dont jouissaient les princes et les héritiers de la dynastie des Omeyyades. Il va couper court à tout cela et il va revenir dans sa petite maison dans laquelle il habitait avant de devenir calife, avec sa femme Fatima bint Abdel Malik ibn Marwan ibn al-Hakam, de la grande dynastie des Omeyyades, qui elle-même n'appréciera pas cette vie austère. Elle s'en plaindra à chaque occasion à son mari. Mmh. Omar ibn Abdelaziz, mais constamment il sera là pour lui faire une exhortation, pour la rappeler de la crainte d'Allah Azza wa Jal, que cet argent-là ne nous appartient pas. Hadamal ou Beitil Muslimin, il faut d'abord en faire profiter ceux qui sont en droit d'en profiter. Donc qu'est-ce qu'il va le faire d'abord dans un premier temps? Fini les privilèges, que ce soit pour lui, que ce soit pour ses cousins, les fils d'Abd Malik, qui eux aussi ne vont pas apprécier. Et ça va causer sa perte, puisque comme ils vont vivre dans cette austérité comme lui, alors qu'ils ne l'ont pas choisi, eh bien ils vont décider purement et simplement de l'assassiner après deux ans de règne. Et donc, il va véritablement régner un retour à la foi authentique, comparable à celle des califes qui ont succédé au prophète Mohammed alayhi salat wa salam. C'est pour cela qu'on va le surnommer Khamis al-Khulafa, le cinquième calife de l'islam. Donc, tout de suite, il annule, par exemple, un certain impôt qui était injuste envers des chrétiens et des juifs. Il dit, pourquoi on leur impose plus que ce qu'on impose à des musulmans? Donc, il va déjà, motivé par l'esprit authentique de l'islam, rétablir de l'ordre dans la conception de l'islam, qui n'est pas une religion réservée aux musulmans. L'islam n'est pas une religion réservée aux arabes. C'est une religion miséricorde pour les mondes et pour toutes les nations et toutes les religions et tous les peuples et toutes les races, quelles que soient leurs origines. Donc il va établir une équité envers tout le monde. Il va tout simplement donner tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ceux qui ont des difficultés, il va les aider. Ceux qui sont aisés, il va leur demander de payer, comme tout le monde, des impôts, mais pas plus aux non-musulmans qu'aux musulmans. Ça sera véritablement un régnant, un émir véritablement juste. On va le retrouver dans l'héritage de son grand-père, Omar ibn al-Khattab, comme je disais tout à l'heure, puisqu'il est descendant de ce calife qui s'appelle Omar ibn al-Khattab, puisque il est le petit-fils de Asim ibn Abd ibn Omar ibn al-Khattab. Asim ibn Omar ibn al-Khattab, c'est son petit-fils du côté de sa mère. Et donc, ce calife-là, au niveau interne, il va imposer la justice. Tous les woulettes, qu'est-ce que ça veut dire un wali, pluriel woulette, c'est-à-dire les gouverneurs, qui sont les personnes désignées pour faire régner l'ordre, ouais. Les administrer dans les villes conquises par les musulmans, et même en Arabie, hein, celles qui rêvaient à la Mecque, etc. Où est-ce qu'il y a un émir qui est injuste, il le destitue. Et il met à sa place un homme pieux, un homme bon, un homme juste, un homme imprégné de justice et de paix, un homme imprégné d'équité, etc., etc. Voilà, à qui il donne des consignes drastiques, etc. Donc il va véritablement faire rétablir le califat dans son sens le plus vrai et le plus authentique, et qui va bien entendu redorer le blason et l'image de l'islam. Même les chrétiens, même les juifs, même ses ennemis vont lui rendre hommage. Il va arrêter les guerres, il va arrêter les conquêtes, il va dire bon c'est fini, il va signer des pactes de paix, même s'il va y avoir des escarmouches un peu partout, il y en a qui vont vouloir en profiter, ils vont y voir une certaine faiblesse, donc vont essayer de reconquérir les territoires perdus, mais il va bien entendu leur faire comprendre que ce n'est pas par faiblesse mais par miséricorde qu'il se comporte de cette manière-là. Donc ça c'est ses rapports qu'il a avec l'extérieur, mais aussi avec ses émirs de l'intérieur, jusqu'au jour où bien entendu il a les caisses pleines, Philippe. Les caisses sont pleines. Beit Mal et le Muslimin, le trésor public est blindé. Et il demande, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Hein, parce que d'habitude, c'était des poètes qui venaient le voir et qui faisaient des poésies d'éloges. Madh wa thana ala, et puis lui en contrepartie, allez, atouh alf dinar, mi'at alf dinar, donnez-lui 1000 dinars, 100 000 dinars, et distribuez les milliers de dinars à ceux qui leur faisaient des éloges. Ça, c'était les émirs précédents. Quand un poète viendra le voir à ce moment-là pour lui faire un petit poète, pour une poésie, pour essayer de récolter quelque chose, à la fin de sa poésie, le gars, il dit, oh, merci beaucoup de ta poésie, elle est vraiment magnifique, j'ai très apprécié. Mais tu sais, cet argent qui est dans, il est pas à moi, je peux pas te le donner. Par contre, moi, je gagne 900 dirhams, pas dirhams, hein. Dirhams, le dirham, c'est la pièce en argent. Il faut 100 dirhams pour faire un dinar. Donc, il gagnait 9 dinars par mois, le gars. Alors que c'était l'émir al-mu'minin, le prince des croyants, le chef de d'une nation qui allait de la Chine jusqu'en France. De l'océan Atlantique jusqu'aux portes de la Chine, et il gagnait 909 dinars par mois. Il lui dit, si tu veux andi 900 dirhams n'atiha lak. L'autre, le poète, il dit, quoi, 900 dirhams, mais je veux pas tes clopinettes, en gros, quoi, que je veux pas moi repartir avec la honte,
je veux pas tes centimes.
Il dit, mais j'ai rien d'autre à te donner. Il était d'une austérité mais extraordinaire, à tel point, Philippe, qu'écoute bien.
Il n'y avait pas Madame Chirac à l'époque pour les pièces jaunes.
Il y a tellement d'exemples à donner sur ce calife-là. Je vais en donner qu'une seule, Philippe, parce que je sais que le temps, nous, on ne pourra pas parler de lui. Il faudrait des jours et des jours pour parler de ce grand homme qui était Omar ibn Abdelaziz. Par exemple, quand il travaillait, il allumait une bougie. Et à un moment donné de la journée, les gens qui sont autour de lui, ils le voient éteindre une bougie. Et allumer une autre bougie. Il dit, pourquoi t'éteins la bougie, t'allumes une autre, c'est pareil. Et il dit, non, cette bougie-là, elle appartient à Beit al-Mal al-Muslimin, au trésor public. Cette bougie-là, elle m'appartient. Maintenant, c'est plus l'heure du travail. Donc, je n'ai pas à m'éclairer avec l'argent public. Je dois m'éclairer maintenant avec l'argent, mon argent propre. Et donc, cette bougie-là, avec laquelle je m'éclaire, c'est mon argent. Et c'est de mon argent que je vais m'éclairer et pas l'argent public. Même à lui-même, contre lui-même, il s'imposait une austérité, une rigueur extraordinaire. Voilà un exemple qui montre bien combien il était d'une très grande piété et d'une très grande crainte d'Allah Azza wa Jal. Je te parle même pas de son adoration, de ses pratiques, etc. Ça serait une montagne de choses à répéter. Mais il est par exemple le tout premier, on va dire celui qui a été le pionnier à rassembler les hadiths. Tu sais que à l'époque du après la mort du prophète, Abu Bakr Siddiq va rassembler le Coran. Uthman ibn Affan, le troisième calife, va unifier les Corans. Hein, parce qu'il y a des Corans qui traînent un peu à droite à gauche, il va ordonner que tout soit brûlé et qu'on n'ait plus qu'un seul mushaf qu'on appellera le mushaf al-Uthmani. Eh bien, ce sera ce mushaf Uthmani qui sera dispersé et répandu dans le monde musulman et qu'une seule et même copie, qui sera exemplaire et qui sera identique pour tout le monde musulman. Et donc ce travail fait sur le Coran sera terminé avec le calife Uthman ibn Affan environ quelques dizaines d'années, ou à peu près une vingtaine d'années après la mort du prophète. Alors que lui, il va tout simplement ordonner ce grand savant qui s'appelle Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, qui était un grand traditionniste de son époque, l'un des plus grands savants de son époque, de la fin du premier siècle de l'islam, en lançant de l'égir, en lançant, écoute bien Philippe, il ordonne que tadwin al-hadith, c'est-à-dire que l'on recueille, qu'on regroupe les hadiths du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. D'autres savants vont le suivre, Ibn Humayd, etc. Et puis bien plus tard, l'imam Ahmad ibn Hanbal, et puis Al-Bukhari, Muslim, et Tirmidhi, Ibn Majah, Abu Daoud, An-Nasa'i, etc. Mais celui qui a été le tout premier à recueillir les hadiths dans un même ouvrage, c'est ce grand homme qui s'appelle Mohammed ibn Shihab al-Zuhri, sur ordre du calife Omar ibn Abdelaziz, rahimahumullah. Donc, il a fait un travail extraordinaire pour la communauté et notamment pour la préservation de l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la préservation de la sunna, de cette sunna, de cette tradition prophétique qu'il va bien entendu protéger et préserver. Finalement, il meurt assassiné en lançant un de l'égir, c'est-à-dire 2 ans à peine après son règne. Je signale, Philippe, qu'avant de mourir, les caisses du trésor public sont blindées et sont blindées et il ne sait plus quoi en faire. Donc il demande, est-ce qu'il y a encore des pauvres? Il dit, il y a plus de pauvres. On dit, est-ce qu'il y a des gens qui sont endettés? Et ils ramèneront, les dents endettés viendront, tiens, prends l'argent et paye ta dette. Et après, les caisses sont encore pleines. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se marier? On veut marier avec l'argent public. Il va marier les jeunes. Il va financer les mariages. Il va leur donner des moyens de se loger, de payer les noces, etc. Et les caisses sont encore blindées. La baraka qu'il aura, tout simplement parce qu'il saura gérer avec équité, avec justice, l'argent public. C'est par excellence le calife de la Ummah, le calife bien guidé. Khamis al-Khulafa Rashidin, Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah wa ra'a. On aimerait bien en avoir un comme ça qui viendrait à la fin des temps pour montrer véritablement la beauté de cette religion. Je rappelle qu'il a rétabli la paix avec tous les royaumes ennemis, chrétiens, perses, juifs, etc. Pendant son royaume, il n'y avait plus de guerre, il n'y avait plus d'injustice, il n'y avait que l'amour, la fraternité, la justice et la solidarité. Voilà un exemple à suivre, Philippe. Que la Oumma devrait prendre pour exemple, alors qu'il a régné sur un royaume gigantesque, je le rappelle, qui allait de l'Afghanistan aux portes de la Chine, jusqu'en France, hein, jusqu'au sud de la France, à son époque, Marseille est conquise par les musulmans. Les musulmans sont à Lyon, ils sont à Lens, à 100 kilomètres de Paris, ils sont à Poitiers, à 250 kilomètres à l'ouest, au sud-ouest de Paris. Voilà où sont les musulmans à son époque, mais il va tout simplement arrêter. C'est parce que c'est lui qui a demandé l'arrêt que finalement Paris est resté tel qu'elle est. Wallahu alam. En tout cas, il a une logique, c'est de dire non contrainte en religion. On ne peut pas par l'épée imposer l'islam aux gens. Voilà qui était Omar. Et c'est pour cela que moi j'aime ce genre de personnage, ce genre de modèle excellent qui montre combien cette religion est tout à fait dans cette logique, contraire à ceux qui veulent nous faire croire qu'on est des conquérants, qu'on est des gens qui veulent fissourour, comme on dit, nahnu fissourour, sur les ce qu'on appelle le front de guerre de l'ennemi que sont l'Occident, etc.
Voilà. Une personnalité que vous nous avez fait réellement vivre, Imam Abdelali, donc à méditer. Dans un instant, nous allons parler du cahier de vacances des petits musulmans. C'est les vacances, c'est vrai que c'est cette tradition des cahiers de vacances qu'on remplit tous les jours pendant les vacances. Et puis bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions si vous en avez à l'imam Abdelali Mamoun au standard de Beurre FM 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Bien, Imam Abdelali, est-ce que vous avez préparé votre cahier de vacances ?
J'essaye, là, je viens de recevoir aujourd'hui même mon cahier de vacances de la part de notre
Vous avez CE1, CE2.
Voilà.
C'est un peu ambitieux comme niveau pour vous quand même. Hein.
Alors que moi, non, c'est CP, c'est cours préparatoire.
C'est CP, ouais.
Voilà, je suis que la lettre Sin et je vais bientôt entamer la lettre Shin.
Ah oui. Voilà. Moi, je suis maternel encore. J'ai le cahier de la maternelle. Alors, Chadili est avec nous. Bonjour et bienvenue.
Bonjour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bien, on va parler des cahiers de vacances des petits musulmans. C'est dans la grande tradition des cahiers de vacances qu'on emmène en vacances tous les ans. Sauf que là, c'est adapté aux petits musulmans. Ouais. À partir de quel âge ?
Nos cahiers, si je peux me permettre, je vais me présenter.
Allez, ouais, bien, vas-y.
Merci. Je me prénomme Chadili Saïd, originaire des Comores. Et avant cela, avant de continuer, je voulais vraiment féliciter notre cher imam Abdelali pour l'explication qu'il a donnée. Mais j'ai écouté l'histoire de Omar ibn Abdelaziz énormément de fois. Je pense que c'est la première fois que je l'ai écouté en français, mais d'une manière très, très, très touchante. Car c'est vrai, c'est une personnalité à ne pas oublier. Omar ibn Abdelaziz, il fait partie des best, comme on dit. Mm-hmm. Mm. Et je continue ma présentation. Je préside dans une des mosquées à Bobigny dans le 93
et en dehors la grande?
Non, la petite, la grande elle est construite mais on est en phase d'attendre l'autorisation préfectorale pour l'ouvrir.
Une question, et combien de mosquées à Bobigny? La ville hein.
La ville de Bobigny 2, 3, 5, on va dire 5.
Oui. Ah, 2, 3, tu es monté à 5 direct. 5 avec la grande.
Avec la grande.
Donc 4 et plus la grande.
Voilà, et il n'y aura que la grande qui est proprement dite mosquée, mais sinon les autres, c'est des salles de prière.
Oui, bien sûr, un peu comme partout. Moi je ne fais pas de différence entre mosquée et salle de prière. Pour moi, à partir du moment où c'est un lieu de prosternation, yantabiq alayhi kalimat masjid, lieu de prosternation, donc traduction en français, mosquée. Pour moi, ce que j'appelle une salle de prière, c'est si elle n'est pas que salle de prière. Si par exemple elle est ce qu'on appelle polyvalente, une salle elle se transforme en salle de spectacle ou en salle de salle de prière d'un autre culte, on appellera ça pour moi une salle de prière. Mais pour moi ce sont des mosquées. Ce qu'aujourd'hui on appelle mosquée, c'est parce qu'il n'y a pas de minaret, il n'y a pas de coupole, il n'y a pas l'architecture arabe, c'est n'importe quoi. Une mosquée c'est pas une architecture qui est celle que l'on a héritée du monde arabe. Une mosquée, c'est à partir du moment où c'est une salle réservée aux musulmans dans laquelle il est pratiqué de manière pérenne et sans interruption les 5 prières quotidiennes, voire même salat al-jumu'ah, c'est une mosquée. Et donc ces salles de prière, ce que tu appelles pour moi, ce sont des mosquées. C'était juste pour corriger les mots.
Il n'y a pas de souci.
Le choix des vocabulaires.
Merci. Après, je dis mosquée parce que je viens de La Réunion. J'ai vécu à La Réunion.
À l'île de La Réunion.
À l'île de La Réunion.
Saint-Denis. Ou Saint-Pierre.
Au port. Oui.
Le port.
Ouais, le port.
Donc Saint-Denis.
Non, c'est pas Saint-Denis.
Ah, ça s'appelle le port.
Ouais, c'est une ville qui s'appelle le port.
C'est où ça?
Vous n'êtes pas réunionnais, Imam Abdelali.
Si j'étais deux fois là-bas, j'ai fait tout le tour de l'île.
Moi, je connais ça. Ils vous ont
Saint-Gilles, Saint-Benoît.
Ils vous ont pas mis le port. Saint-Port.
J'ai pas été au port. C'est aussi de quel côté ça? C'est à l'est.
À côté de Saint-Paul. C'est à côté de Saint-Paul.
C'est à l'est.
On va dire comme ça.
C'est là où il y a du vent.
Du côté où il y a le Mistral là-bas. Je sais pas. Mais c'est le port. Le port, c'est une ville.
Ah,
et c'est vrai que quand je suis venu ici, ne voyant pas cette grande mosquée qu'on connaît à la Réunion, c'était un petit peu. J'étais un petit peu perdu.
D'accord, machin.
Non, la Réunion, c'est
vrai que là-bas, il y a une ambiance extrêmement fraternelle. La diversité culturelle de la population fait que tout le monde s'entend bien.
Il n'y a pas de
racisme. Les gens vivent, c'est extraordinaire. Pourtant, il y a une diversité extraordinaire. Il y a les kafrines, les oreilles,
les arabes.
Les arabes. Attendez, les arabes, Philippe. Le singulier de arabes, c'est un arabe avec un Z.
Avec un Z.
Et c'est qui les arabes? Ce sont les Pakistanais, les Indiens. de Surat et de Gujarat qui sont musulmans et qui vivent là-bas. Mmh. Alors que quelques Maghrébins qui sont eux les Arabes, on les appelle pas les Arabes, on les appelle les Maghrébins. Mmh. Il y en a quelques-uns, en fait, c'est quelques familles. Le reste, c'est que des Indiens venus de l'Inde.
Ouais. Et donc, dans la ville de Bobigny, j'ai une association qui accueille quelques centaines d'enfants pour étudier le Coran, le Tawhid, les matières religieuses. Et on a pu développer avec cette association-là une petite maison d'édition où on édite quelques livres. Et par période, on édite aussi des livres périodiques comme le Pâques Ramadan. On avait un Pâques Ramadan. Et là, pour la période...
Il y a Pâques Vacances.
Alors, la maison d'édition s'appelle
Al-Qamar.
Al-Qamar. Voilà, donc c'est, on peut retrouver ça dans les librairies classiques.
Dans les librairies, notamment le Bayina, Sana, voilà. Orientica.
À Couronne.
À Couronne.
Orientica aussi, oui.
Tout à fait.
Orientica, oui, effectivement. Voilà.
Bon, alors, quel est le principe d'un cahier de vacances adapté aux petits musulmans? Qu'est-ce qu'on retrouve comme.
Le principe, c'était d'essayer.
Matière.
De faire en sorte que nos enfants qui partent en vacances
restent. Ne perdent pas toute cette période-là, gaspillent pas toute cette période.
Tout à fait. Surtout que. Nos enfants ils sont pris par l'école de la République, ça va de soi, et très peu d'heures pour les matières religieuses. Et donc on s'est dit qu'on allait préparer un pack vacances qui contient 5 produits, 2 cahiers qu'on a appelé le cahier de petits musulmans, les vacances des petits musulmans. À l'heure actuelle, c'est pour les CE1, CE2. Et on a sorti, il y a le premier tome, c'est Découverte du monde avec le programme national français.
Et c'est des cours de quoi?
Découverte du monde.
Oui, je veux dire, c'est des matières profanes, c'est pas des matières religieuses.
Non, Découverte du monde, c'est matière
profane.
Tout à fait.
Ouais, d'accord.
Et l'autre matière dedans, c'est 2 en 1. On a proposé cela, 2 en 1, Découverte du monde et le Tawhid. Au lieu que les parents aillent acheter, par exemple, le livre qu'on connaît tous, Passeport, où il n'y a que des matières qu'on connaît à l'école, on s'est dit, allez, on fait 2 en 1. Ici, c'est Découverte du monde avec le Tawhid. Et celui qu'on va recevoir, Inch'Allah, lundi ou mardi, ça sera l'arabe et l'anglais. Et en plus de cela, il y a une petite BD à la fin sur le prophète, al-Islam.
Mashallah.
Et on a développé aussi un concept, Inch'Allah, qui se veut innovant, à savoir des mots mêlés. On a tous fait des mots mêlés.
Les mots croisés, quand
les mots croisés,
voilà, les mots mêlés.
Les mots croisés. Et là, c'est des thématiques dini. Thématiques dini dans.
Et là, c'est des mots en arabe.
C'est des mots en arabe.
Voilà.
Dans le premier, c'est
pour enrichir le vocabulaire.
Tout à fait, enrichir, mais et aussi apprendre d'une manière très 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 ludique, très amusante.
Et en même temps, c'est accessible. C'est pas un niveau très difficile, quoi.
Du tout.
Donc
du tout.
Même pour les novices en arabe ou les novices en religion, ils peuvent facilement.
Tout à fait. Pour les mots mêlés, il suffit juste de connaître les lettres arabes. Ouais. Et si je peux me permettre, le premier tome, il traite. Ça sera de trouver les noms d'Allah dans des grilles, les noms des prophètes, les noms des sahaba. Les noms.
Alors les sahaba, c'est les compagnons du prophète.
Voilà, les compagnons du prophète, les noms des sourates de le Coran, les noms des pays, si je peux dire ainsi, musulmans, et d'autres thématiques, tout ça sous forme de grille. Et ça fait que l'enfant, ou même pas l'enfant, la personne qui va l'utiliser, il va apprendre ces notions, mais d'une manière très, très, très ludique, très pédagogique.
Alors, on a Abdellah au téléphone au 01 53 48 3000. Abdellah, bienvenue.
Salam alaikum.
Wa alaikum salam. Abdullah, c'est ça?
Abdelhaq. Abdelhaq Bachir.
Alors, quelle est votre question, Abdelhaq?
Ma question, c'était pour l'imam concernant le nouveau protocole de santé utilisé à la mosquée. Concernant la distance, là.
Oui, la distanciation sociale.
Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a une fatwa par le fatwa européen ou quelque chose comme ça pour donner l'autorisation à ça?
La quasi-majorité écrasante des savants et ainsi des institutions juridiques musulmanes, al-hayat al-fiqhiyya al-alamiyya wal-europiyya, wafaqat ala an takuna hunaka, yani kima ngoulou, une distanciation, hada al-tafarruq al-ijtima'i bayna al-musallina li tajannub al-waba', tajannub al-ja'iha, allati tudammiru al-bilada wal-ibad. Bien entendu, je répète en français, il y a un consensus de ces institutions musulmanes juridiques qui autorisent cette distanciation sociale, parce que je le rappelle, Philippe, que normalement, dans une prière collective, les musulmans doivent rester collés les uns à côté des autres, et qu'il est même recommandé de ne pas laisser d'espace. La tada'u furujat il shaytan, comme le dit l'imam, mais bien avant cet imam, le prophète bien-aimé Mohammed alayhi salat wa salam, entre vous, c'est ne laissez pas d'espace entre vous. Et là, justement, ces savants-là ont donc autorisé cette distanciation, cette séparation entre les fidèles.
Et qui elle est de combien la séparation?
Elle est d'un mètre. Un mètre, voilà. Ouais. Donc chaque musulman doit avoir autour de lui un mètre, ça fait 4 mètres carrés. Dans la salle de prière, il doit venir avec son tapis de prière.
Tout ça, c'est valable pour toutes les religions.
Voilà, il doit venir avec son masque. Et à l'entrée, il se lave les mains.
Donc, pas d'ablution à la mosquée.
Comment?
C'est ça, on fait pas d'ablution à la mosquée.
Non, il y a pas. Les salles d'ablution sont fermées.
Voilà.
Faites attention le vendredi quand vous allez à la mosquée pour faire votre prière. Assurez-vous que vous avez fait vos ablutions à l'extérieur, puisque pratiquement toutes les mosquées ont fermé leurs salles d'ablution pour éviter justement toute forme de contamination et de risque de contamination. Et donc c'est dans le souci de préserver la vie des gens.
Et les toilettes aussi, ils ont fermé. Hein.
Ah oui, tout. Ouais. Quand on dit les toilettes sanitaires, c'est tous les sanitaires, salles d'ablution, salles de les toilettes, etc. À tel point que même le recteur de la mosquée de Paris s'est plaint. Écoute bien, Philippe, que dans les jardins de la mosquée de Paris,
les gens ont fait pipi.
Ils ont fait pipi, même dans des bouteilles, parce qu'ils pouvaient plus se retenir, ils avaient des, peut-être des problèmes d'incontinence, c'est pas, en tout cas, il s'en est plaint, il a évoqué à la radio, etc., et au micro de la mosquée, que ce comportement totalement d'incivilité était totalement intolérable de la part des musulmans. Et donc, bien entendu, nous rappelons à tout un chacun que s'il ne peut pas se retenir, qu'il sait qu'il ne peut pas, il n'a pas à rentrer dans la mosquée. Akhouya, ma tqadash tahammel, ma tqadash tkimangoulout. Tu n'as pas de. L'arsalam yaqoul, la yusali ahadukum wa huwa yudafi'u al-akhbatayn. Il n'est pas autorisé à quelqu'un de faire sa prière alors qu'il est en train de retenir de force son envie d'aller faire ses besoins. Khoya, t'as pas été aux toilettes avant, tu sors de la mosquée et tu restes dehors au ma alekché. Tu n'auras pas moins de récompense que si tu es rentré et que tu as souillé la mosquée. Donc voilà, entre autres, pour répondre à notre frère Abdelhaq, que nous sommes dans une situation exceptionnelle, donc qui forcément impose des règles exceptionnelles. Halat darura tujibu ittikhad ijra'at daruriya taban. Fahimti akhi?
Merci beaucoup à vous et à Philippe et tout ce que vous faites.
Merci de votre écoute, Adelard.
Beaucoup de mosquées, Philippe, même, s'autorisent à faire deux fois le prêche.
Le vendredi, ça permet à tout le monde d'y aller.
Du moins, à beaucoup d'y aller, beaucoup plus que, parce que là, comme je le dis, il y a quatre fois moins de personnes qui peuvent venir, parce que chaque musulman monopolise 4 mètres carrés de la mosquée. Donc forcément, au lieu d'avoir les 500 ou 600 ou 1000 ou 2000, t'en as ce même chiffre divisé par 4.
Alors là, pour la prière du vendredi, on rappelle quel est le statut de la prière du vendredi.
Elle est obligatoire pour les hommes.
Oui, donc ça veut dire que...
En principe, en règle générale, c'est-à-dire quand il n'y a pas de crise sanitaire, elle est obligatoire pour les hommes et recommandée pour les femmes. Moi, j'invite même les mosquées tout simplement à interdire l'accès aux femmes, puisque pour elles, la prière du vendredi n'est pas obligatoire et qu'elles peuvent le suivre dans les médias, etc. Pour laisser encore plus de place à ces hommes pour qui, eux, est obligatoire la prière de Jumu'ah, jusqu'à la fin, bien sûr, de la crise sanitaire. Et après, à ce moment-là, elle réouvrira aux femmes. Mais moi, je pense que ça serait une bonne chose que d'abord de donner la priorité à ceux à qui Dieu leur a imposé obligatoirement de faire la prière de Jumu'ah, de la faire. Donc voilà, Jumu'ah Mubaraka li jami' al-muslimin. Et en attendant que Rabbil Alamin ifraj alayna, qu'il nous débarrasse enfin une fois pour toutes de ce fléau, de cette maladie qui tue encore, je le rappelle, dans le monde, et qui a provoqué purement et simplement l'interruption de tous les rites, de tous les pèlerinages à la Mecque, à Médine. Médine n'est même pas accessible, Philippe, pour te dire, tu vois. Même ceux qui vont aller à la Mecque, ils vont aller que à Mecca. Ils vont même pas pouvoir aller à Médine, faire les ziyarat. Donc voilà, c'est
toutes
vraiment...
les religions sont concernées et tous les lieux de pèlerinage sont concernés. Ça. Il faut le dire. Hein.
Ouais. On a une émission, je crois.
On en parlera demain, samedi. Demain matin.
Voilà, demain.
On en parlera demain matin entre 10h et 11h.
Avec
tous les représentants religieux. Comme ça, on verra comment, effectivement, les religions s'organisent pour ce déconfinement. Le pack vacances, donc, on peut le trouver où le pack vacances pour les petits musulmans?
Merci. Le pack vacances, vous pouvez le retrouver sur notre site www.alkama.fr. www.alqamar.fr. Et je disais, je présentais les mots mêlés. Dans le premier tome, c'est des thématiques religieuses. Et dans le deuxième tome, ça sera la conjugaison. La conjugaison. Il y a 20 verbes conjugués au présent et au passé, toujours sous format de gris. Et c'est magnifique pour apprendre, mais d'une autre manière, tout en s'amusant. Et enfin, le dernier produit, c'est un quiz avec 50 questions sur le thème du tawhid. À savoir, on va apprendre les 6 piliers de la foi, mais sous format, pas dans un livre, et ça, même si ça existe, mais sous format questions-réponses avec des quiz, avec un quiz où les parents, les enfants, ils s'amusent autour de la religion.
Inch'Allah, superbe. Donc, tu as un site internet, donc qamar.com, on trouve.
.fr.
.fr, donc Q-A-M-A-R.
Tout à fait.
.fr.
.fr. Vous pouvez retrouver ce pack Ramadan, si je peux dire son prix.
Ouais.
5 produits à l'heure actuelle, 20 euros.
5 livres à 20 euros.
5 livres.
Donc ça fait 4 euros à peu près en moyenne.
On va dire comme ça.
Y compris les mots mêlés.
Y compris les deux mots mêlés.
D'accord.
Ouais. Et les deux livres pour les vacances et le quiz.
Machin.
Et dans ce site-là, vous trouverez d'autres beaux livres. Si je peux me permettre, Alqamar, c'est une petite maison d'édition, pas avec beaucoup de livres. Pourquoi ? Parce qu'on voulait se spécialiser justement sur tout ce qui est pédagogique.
Et l'éducation.
Voilà, l'éducation. C'est pour cela que vous y retrouverez des livres pour apprendre à écrire, à lire, le tawhid, le fiqh. Et tout ça sous format pédagogique, ludique. Et
est-ce que vous avez des déclinaisons aujourd'hui sur Internet ? Ou est-ce que les livres renvoient par exemple à des programmes Internet ?
Très bientôt.
Ou vous avez choisi vraiment le format livre tel que le cahier de vacances qu'on a toujours connu.
J'apprécie énormément cette question parce qu'on se veut innovant dans ce qu'on fait. On a justement un livre qu'on a appelé mon guide d'écriture. On sait qu'il y a énormément de produits, de supports pour apprendre à écrire. La différence entre...
Numérique, tu veux dire, un support numérique.
Non, papier.
Ah, papier. D'accord.
La différence, c'est quoi, l'imam ? C'est que à l'intérieur, on a un code où l'enfant, il va pouvoir aller sur ce code-là. Il tombera sur des images où il entendra la lettre, comment elle se prononce.
Le fameux code, un code...
QR.
Voilà.
Tout à fait. QR code, voilà. Grâce à ce code...
Comme un code barre, quoi.
Comme un code barre, tout à fait. Grâce à ce code, l'enfant, il pourra regarder la lettre Alifoun, par exemple. Il l'entendra et il verra comment elle s'écrit. Et la vidéo, elle dure 1 minute et 11 secondes. C'est pas des longues vidéos où l'enfant, il va se fatiguer. Et grâce à ça, il peut apprendre, mais d'une manière autonome, tout seul, à la maison. Et avec le confinement, il n'y a pas mieux. Il y a vraiment...
Super.
C'est-à-dire que là, l'enfant peut travailler tout seul, il n'y a pas besoin d'avoir des parents.
Vraiment tout seul.
En toute autonomie.
Tout à fait.
Donc, Al-Qamar ou Qamar ?
En arabe, Al-Qamar.
En français, non, le site.
www.alqamar.
A-L. A-L, plus loin. Q-A-M-A-R.
Tout
collé.
Tout collé.
Q-A-M-A-M-A-R.fr.
Al-Qamar.
C'est ça.
Al-Q-A-M-A-R.fr.
D'accord, très bien.
C'est vrai.
Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Imam Abdelali. Donc on se retrouve demain matin, nous, Imam Abdelali, pour Bikuni, le déconfinement des religions.
Merci pour votre invitation.
Avec beaucoup de plaisir et rendez-vous à vendredi prochain pour un nouveau numéro de l'Islam au présent. Voilà, le temps de changer de studio. Ce sont les petites annonces que vous passez en direct au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
Retrouvez l'Islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.